VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, midi à Kinshasa, 11h en temps universel, une centaine de policiers anti-émeutes ont encerclé aujourd'hui à Kinshasa le siège du parti historique de l'opposition en République démocratique du Congo, face auquel se consumait un véhicule de transport de troupes. C'est un montage du pouvoir pour empêcher les travaux de construction de la tombe d'Étienne, Tshisekedi au siège de l'UDPS, a déclaré à l'AFP son porte-parole Augustin Kabuya, joint au téléphone. Étienne Tshisekedi, figure historique de l'opposition à RDC, depuis un demi-siècle, est mort le 1er février à Bruxelles à l'âge de 84 ans. Le 22 avril, son parti, l'UDPS, a annoncé le rapatriement de sa dépouille dans la capitale congolaise le 12 mai pour être inhumé au siège du parti, malgré l'absence d'un accord permettant une inhumation sur un terrain privé interdite par la loi congolaise. Annoncé à plusieurs reprises, le retour de la dépouille de Tshisekedi a été à chaque fois reporté sine die, faute d'accord entre la famille, le parti et les autorités sur le lieu de la sépulture de l'opposant. Le président zimbabwéen Robert Mugabe, 93 ans, s'est envolé lundi soir pour Singapour afin de passer des examens médicaux de routine. 2 mois à peine après sa dernière visite médicale en Asie, a rapporté aujourd'hui le quotidien d'État. Le plus vieux dirigeant en exercice dans le monde se rend régulièrement à Singapour pour des examens de santé. Son dernier voyage en mars avait fait l'objet de nombreuses spéculations. 2 journalistes avaient même été arrêtés quelques heures pour avoir écrit la mauvaise forme du président. Aucun bulletin de santé officiel de Robert Mugabe n'a jamais été publié. L'absence du président Muhammadu Buhari plonge le Nigeria dans l'incertitude. Le chef de l'État avait prévenu les 190 millions de Nigériens en rentrant de Londres début mars après 8 semaines d'absence pour raison médicale qu'il y en aurait d'autres. Mais le retour du président âgé de 74 ans dimanche soir en Grande-Bretagne ne cesse d'inquiéter ses compatriotes. La prochaine élection présidentielle est prévue en février 2019. Beaucoup au sein de la société civile et de l'opposition appellent le président à démissionner s'il n'est pas en état de diriger le pays d'ici là. Ses proches, eux, restent silencieux, affirmant que le gouvernement peut poursuivre son travail en l'absence de M. Buhari. Des organisations professionnelles ont critiqué hier une nouvelle loi de la presse en Côte d'Ivoire qui a été adoptée en commission et devrait être votée prochainement par l'Assemblée nationale ivoirienne. Une loi qui provoque la colère des journalistes et autres organisations professionnelles de la presse. Marc Camara, président de l'Association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire, dénonce une loi liberticide.
Nous sommes inquiets. Nous espérons que notre pays n'est pas en train de faire des pas en arrière avec ce projet de loi sur la presse qui prévoit dans son article 90 les délits par voie de presse, voire même des emprisonnements. Depuis l'accession du président Alassane Ouattara au pouvoir depuis 2011, nous pouvons dire qu'il y a eu vraiment une grande amélioration dans l'exercice de notre profession. Pour nous, c'est salutaire. Mais nous sommes vraiment étonnés que ce projet de loi vienne remettre en cause tous les efforts du gouvernement ivoirien. Et nous en appelons vraiment au bon sens des autorités ivoiriennes. Nous pensons, le président Alassane Ouattara, qui soutient la liberté de la presse, nous pensons qu'il va revoir.
À Camara, la présidente de l'Association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, l'Assemblée nationale a adopté une loi qui lève le monopole exercé depuis longtemps sur la production d'électricité et la Sonabel, la Société nationale d'électricité du pays. Ce reste donc le début de la fin des délestages. À Ouagadougou, on se laisse rêver. Quelques éléments de réponse avec notre correspondant sur place, Zoumana Onogo.
Nous sommes inquiets. Nous espérons que notre pays n'est pas en train de faire des pas en arrière.
Par ces temps de chaleur caniculaire au Faso, où la température oscille entre 40 et 45 degrés, la hantise des Burkinabés a pour nom délestage. Alors, comment a-t-on accueilli la loi sur la libéralisation de la production énergétique au Faso? Suivons des avis.
Nous qui sommes dans le domaine de la restauration, on a beaucoup de pertes quand il y a les coupures de courant. On peut plus conserver le yaourt comme on veut, les sandwichs, les bissaps qu'on vend. Dès qu'il y a les coupures, tout se de biocompose trouve la loi très bonne. Donc, on souhaite que soit mis en œuvre rapidement.
Le délestage au Burkina Faso, le courant se coupe, ça dure, ça prend du temps et ensuite, il y a l'eau qui suit. Donc, quand j'ai entendu une loi votée pour libéraliser le secteur de l'électricité, je suis vraiment content. Je félicite le gouvernement pour cette loi.
Pour nous, les blanchisseurs, les gens amènent des habits. Pour les passer, il n'y a pas le courant, on ne peut pas travailler. Mais si les privés ajoutent les sonabelles, ça nous arrange seulement. En tout cas, cette loi-là, ça, c'est bon. Si on doit prendre le privé là, ajouter, c'est ça qui est bien avec nous. Ça nous arrange. En tout cas, le délestage là, ça nous fatigue seulement. Ça ne nous permet pas de travailler.
In concreto, que dit la loi? Écoutons le ministre de l'Énergie, Alpha Omar Dissa.
La première innovation importante, c'est la suppression de la segmentation pour permettre l'installation de producteurs indépendants d'électricité sur toute l'étendue du territoire. Et le producteur indépendant produit verse à la Sonabel les taxes de transport et quand l'énergie arrive à destination, le client éligible a son énergie pour ses besoins. Vous avez aujourd'hui des gens qui ont la possibilité de pouvoir avoir sur leur toit des mini-centrales solaires. Des gens qui ont la possibilité aujourd'hui, parce qu'ils ont installé des groupes pour leur propre consommation et ils ont un surplus qui est là, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Aujourd'hui, la loi permet donc à ces autoproducteurs-là de vendre leur surplus donc à la Sonabel tant que ça ne dépasse pas 30% de la production. Nous avons le monopole du réseau de transport qui est réservé à la Sonabel. Nous avons dit c'est bon de pouvoir donc ouvrir la production, mais le réseau de transport, nous avons dû doit rester entre les mains de l'État. Parce que c'est l'État qui a sa politique d'extension du réseau. C'est un processus que nous avons mis en place qui va aboutir forcément à la diminution du kilowattheure. Nous oscillons entre 130 et 150 francs comme coût de production du kilowattheure. Avec le solaire aujourd'hui, nous pouvons produire à moins de 70 francs.
Zoumana Bounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Une centaine de migrants africains ont réussi à pénétrer mardi dans l'enclave sous administration espagnole de Melilla en franchissant la haute barrière frontalière qui la sépare du Maroc, a-t-on appris de sources concordantes. La dernière tentative d'entrée massive à Melilla remonte à octobre 2016 quand une centaine de migrants africains étaient parvenus à franchir la triple clôture d'une longueur d'environ 12 km. La Cour pénale internationale envisage d'ouvrir une enquête sur les crimes visant les migrants en Libye qui est devenu un marché pour la traite des êtres humains, a déclaré lundi la procureure de cette instance. Des milliers de migrants, dont des femmes et des enfants, sont retenus dans des centres de détention en Libye où les crimes, y compris meurtres, viols et actes de torture, sont présumés monnaie courante, a déclaré Fatou Bensouda devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, précisant que la CPI était en train de collecter des éléments sur ces crimes présumés.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Le président palestinien Mahmoud Abbas a dit attendre bientôt la visite de Donald Trump dans les territoires palestiniens et s'est déclaré prêt à rencontrer le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sous le parrainage du président américain. M. Trump a accepté l'invitation palestinienne à venir dans les territoires et nous attendons maintenant sa visite à Bethléem, a dit M. Abbas. Ce mardi, Donald Trump, se targuant de son passé d'homme d'affaires, a dit à plusieurs reprises sa volonté de présider à un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. Ses prédécesseurs à la Maison-Blanche se sont cassés les dents. Des rebelles syriens et leurs familles ont, pour la première fois depuis le début de la guerre, commencé à évacuer lundi un quartier de Damas permettant au régime de raffermir son contrôle sur la capitale syrienne. Le même jour, les Nations Unies ont annoncé le début, le 16 mai à Genève, sous leurs auspices, d'un nouveau cycle de négociations intersyriennes. Et puis, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson doit rencontrer demain, mercredi, à Washington, ici à Washington, son homologue russe Sergei Lavrov pour des pourparlers sur la Syrie, l'Ukraine et les questions bilatérales. Et puis pour terminer, les électeurs sud-coréens votent ce mardi pour désigner le successeur de la présidente Park Geun-hye. À moins d'une grande surprise, le candidat libéral Moon Jae-in, qui prône une politique d'apaisement avec la Corée du Nord, devrait s'installer à la Maison Bleue, qui est le siège de la présidence sud-coréenne. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Ce sera en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette matinée. Bon après-midi, à demain. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.